une histoire dans le rétroviseur.
Il y a 70 ans, en janvier 1966, la CGT et la CFDT signaient un accord d'unité d'action appelé à faire date. Alors qu'en Loire-Atlantique, l'unité d'action était de mise depuis le début des années 50, dans le reste de l'Hexagone, c'est la défiance qui dominait. Seule la CGT était demandeuse d'unité, seule façon pour elle de rompre son isolement. Mais ses éventuels partenaires, Force ouvrière et CFTC, Confédération française des travailleurs chrétiens, n'avaient guère envie de lier leur sort à celui d'une organisation considérée comme étant la courroie de transmission du Parti communiste dans le monde du travail. Or, le communisme, à l'époque, a les couleurs grisâtres de l'URSS et du Bloc de l'Est et les traits d'un massacreur appelé Joseph Staline. Pour Force ouvrière, organisation issue d'une scission de la CGT en 1948, pas question de faire alliance avec Moscou et son socialisme de caserne, pas question de pactiser avec un syndicat qui prend ses ordres au siège du Parti communiste français, pas question de s'allier avec une organisation qui trahit la charte d'Amiens adoptée en 1906, une charte qui disait que la CGT se devait d'être indépendante des partis. C'est pourquoi Force ouvrière se considère comme la seule véritable héritière de la CGT d'avant 1914, puisqu'elle se présente comme farouchement indépendante, quand bien même elle est intimement liée au Parti socialiste. Mais voilà, après une bonne décennie d'empoignades et de bagarres idéologiques, la CFTC, plutôt droitière et peu portée sur la lutte des classes, est conquise par son aile gauche, dont une des bases les plus solides se situe en Loire-Atlantique. Une aile gauche qui décide de transformer profondément l'organisation. La Confédération française des travailleurs chrétiens CFTC devient en 1964 la CFDT, Confédération française démocratique du travail. L'humanisme chrétien demeure une des sources d'inspiration du syndicat, mais plus la seule. Ce changement n'est pas cosmétique, il indique un net changement d'orientation. La vieille garde est poussée dehors tout simplement, et elle se retrouvera, cette vieille garde, dans une CFTC dite maintenue, mais réduite à la portion congrue, organisation qui existe toujours aujourd'hui. En janvier 1966, donc, les deux organisations syndicales se mettent d'accord pour œuvrer ensemble à l'amélioration du pouvoir d'achat et des conditions de vie et de travail, à la défense et à l'extension des droits syndicaux dans l'entreprise, à la refonte de la fiscalité, mais aussi à obtenir la réduction des dépenses improductives de la nation et la garantie du droit à l'emploi, ce qui sous-entend que les choix stratégiques de développement économique ne doivent pas être du ressort du seul politique. Et sur ce dernier point, c'est la CFDT des Pays de la Loire qui est en pointe. Ce n'est guère étonnant, puisque dans l'ouest de la France, CFDT, CGT et même Force ouvrière sont engagés dans un combat pour l'industrialisation des territoires ruraux, avec un slogan qui sera de mise encore longtemps, « L'Ouest veut vivre », autrement dit, proposer autre chose que l'exode rural à sa jeunesse en recherche de travail. Unité d'action, mais pas unité tout court. L'unité est toujours un combat où chaque intervenant cherche à ne pas aller trop loin, à ne pas être prisonnier de l'accord. Et ce combat est externe comme interne, c'est-à-dire qu'il faut trouver un équilibre, un compromis pour ne pas perdre en route une partie de l'organisation pour qui soit on va trop loin, soit on est trop timoré. Concluons. Cet accord permet à la CGT de rompre son isolement et à la CFDT de s'affirmer comme une puissance syndicale. Et il oblige Force ouvrière à évoluer si elle ne veut pas rester sur le carreau. Enfin, cet accord d'unité d'action est important pour l'histoire sociale de la France puisqu'il ouvre une nouvelle période de conflictualité sociale dont l'acmé interviendra en mai-juin 1968.
Alternant FM.